Chapitre 6. Agnetta se réveille à 7h30. Le son du rasoir de Bernard filtre à travers la porte fermée de la salle de bain. Il lui faut quelques secondes pour réaliser où elle se trouve. Puisque la police devait effectuer une perquisition, Bernard et elle ont choisi de tirer quelque chose de positif de la situation en réservant une nuit au Grand Hôtel. Elle pourrait enfin faire la grasse matinée, tandis qu'il réglerait son réveil et rentrerait à la maison pour recevoir les policiers afin de se montrer coopératif. Agnetta se rendort, ne remarquant que l'odeur du dentifrice quand il l'embrasse sur le front et quitte la chambre d'hôtel. À 8h, le room service lui apporte son petit déjeuner. Elle se verse un peu de café et s'assied sur le lit pour manger des œufs brouillés et du pain grillé. Le ciel est blanc au-dessus du toit en cuivre du palais royal de Stockholm, de l'autre côté du fleuve Nordström. Agnetta a encore 2 heures devant elle avant de se rendre à la rédaction du journal à téléphone plein. Elle boit encore un peu de café et repense au dîner de la veille. Elle portait une jupe noire en crochet avec des fils d'or scintillant, un chemisier en soie jaune qui lui moulait les seins, et des sandales dorées à talons fins. « Épargne-moi, Aphrodite, » a dit Bernard en lui tenant la lourde porte. Elle est passée devant lui dans le couloir silencieux de l'hôtel, balançant exagérément ses hanches. « Je tombe à genoux » s'est-il écrié en glissant la carte de la chambre dans la poche de sa veste. Elle a ri, s'est dirigée vers les ascenseurs et a appuyé sur le bouton d'appel. Tandis que le bruit du mécanisme retentissait derrière la porte en métal, Bernard a jeté un coup d'œil à son téléphone pour la 100e fois, inquiet de n'avoir pu joindre ni Hugo ni son avocat de toute la soirée. Après être sortis de l'ascenseur, ils ont descendu l'escalier jusqu'au restaurant où on les a conduits à une petite table au fond de la salle. Ils ont aussitôt commandé 2 coupes de champagne et ont essayé de passer un bon moment. Bernard a raconté comment il s'était retrouvé à côté de l'écrivain Salman Rushdie dans un petit avion en route vers un festival littéraire. Tu sais, avec ma peur de l'avion et la menace qui pesait sur lui, je ne pensais qu'à moi et j'étais terrifié. Ben finalement, on a passé un super moment et on est devenus amis. Bien que connaissant déjà l'histoire, Agnetta a ri tout en se disant que sa peur de l'avion devait être liée à son accident de bus. La première fois qu'ils avaient fait l'amour, Agnetta avait senti, au bout de ses doigts, une cicatrice cachée sous les poils de son torse. Elle l'avait questionné, et alors qu'il fumait un joint dans le lit, il lui avait raconté son accident. Le drame avait été relayé dans les médias et avait contribué à l'introduction du port de la ceinture de sécurité obligatoire dans les bus. Il expliquait aussi le fait que Bernard roulait si lentement qu'il provoquait toujours des embouteillages derrière lui. Agnetta a bu une gorgée de champagne et s'est penchée en avant. Prenant une profonde inspiration, elle a repris la conversation au sujet de Hugo. Elle lui a dit qu'elle avait l'impression que la famille était dans une impasse et que c'est pour ça qu'elle avait évoqué l'idée de retourner vivre un temps chez sa mère. C'est juste que je comprends pas vraiment ce qui se passe. Quand Hugo était petit, il était plutôt facile. Mais en grandissant, il a commencé à se renfermer, et maintenant il est tout le temps en colère contre moi. « Je ne sais pas ce qu'il a », a répondu Bernard. « Tu as tout fait parfaitement. Et plus que ça d'ailleurs. Tu as même dit que tu voulais l'adopter. Je le veux, mais... » Elle s'est tue lorsque le serveur a apporté son assiette, une poitrine de bœuf de longue cuisson à la coriandre dans un pain vapeur. Elle l'a remercié et a attendu que le plat de Bernard, composé de 3 écrevisses cuites dans un bouillon parfumé à la nette, soit servi. « Je ferai n'importe quoi pour te garder », a-t-il dit avec gravité. « Si je sentais que tu le faisais, ou que tu essayais ne serait-ce qu'un peu, tout serait différent. Et je me sens tellement seul dans notre relation. Et ça dure depuis un bon moment maintenant. » « C'est à cause de Hugo ? A-t-il demandé ? Oui. Enfin, plutôt à cause de la façon dont tu gères la situation. C'est juste que tu sais comment il est. Dès que je lui fais la moindre remarque, il prend cette expression. Et si je n'arrête pas tout de suite, il se lève et s'en va. Et on ne le revoit plus pendant des jours. « Mais ça, c'est un jeu de pouvoir !» a-t-elle murmuré aussi bas que possible. « Je vais devenir une meilleure personne à partir d'aujourd'hui, » a promis Bernard en cherchant à capter son regard. « C'est toi ou l'écrevisse qui a dit ça ? » a-t-elle tenté pour plaisanter. « Vraiment, je vais essayer. » « Tu es déjà une bonne personne. » En baissant les yeux, elle a soudain réalisé que sa plus grosse erreur avait été de dire à Hugo, à minuit, le soir du nouvel an, il y a presque un an, qu'elle aimerait l'adopter. Bernard avait été fou de joie, il l'avait serré dans ses bras. Mais le visage de Hugo s'était figé, il lui avait tourné le dos et, sans un mot, était parti s'enfermer dans sa chambre. Au fond d'elle-même, Agnetta sait que tout ça n'était qu'une question de vanité, qu'elle avait essayé d'être une meilleure mère que Claire. Elle ne comprenait pas comment celle-ci avait pu être aussi stupide. Elle avait longtemps pensé que l'une des raisons pour lesquelles elle avait agi si précipitamment ce soir-là était que sa propre mère adoptive lui avait offert tant de sécurité et d'amour. Sa mère biologique était morte d'un cancer du sein dans un bidonville près de Dakar, au Sénégal, quand Agnetta avait 3 ans. Bernard, ce que j'ai dit sur le fait de retourner vivre chez ma mère me semble un peu précipité, vu tout ce qui se passe avec Hugo, a soupiré Agnetta. Ce n'est pas uniquement de ta faute. J'ai aussi fait pas mal d'erreurs. Tu veux dire que tu restes ? On reste ensemble et on essaie de se soutenir mutuellement. C'est la seule chose raisonnable à faire pour l'instant. Merci. Ça me soulage tellement que tu dises ça, a-t-il souri, les yeux brillants. Après quelques autres plats, du chou frisé frit, du cerf rôti avec de la purée de céleri rave et une grappa en fin de repas, ils étaient remontés dans leur chambre. Agnetta se sert à nouveau un café, prend une viennoiserie sur une petite assiette et se rassied sur le lit. Elle vient à peine de goûter la crème pâtissière du bout de la langue que le téléphone sonne. « Bonjour, » répond-elle. « Je t'ai réveillée, » demande Bernard. « Non, je prends mon petit déjeuner. » Quelles sont les nouvelles de Hugo ? Tout semble tellement bureaucratique. J'ai parlé avec son avocat, il a une réunion avec le procureur cet après-midi. Je comprends qu'il faille prendre toute cette histoire au sérieux, mais mettre un mineur en détention provisoire, ça ne se fait pas. Ou juste dans des cas exceptionnels. Tu seras présent à la réunion ? Demande-t-elle. On verra. J'ai dit que je viendrais, si ça pouvait aider, mais je sais plus. Ce que j'aimerais ? C'est le ramener à la maison. Lui faire prendre un bon bain chaud et lui cuisiner des boulettes de viande, dit Bernard. Et la perquisition, ça donne quoi? Ça vient de se terminer. Ils ont surtout fouillé la chambre de Hugo et pris tout ce qui est électronique. Sinon, ils ont semblé particulièrement intéressés par tes sous-vêtements. Mais ils ont laissé ma petite boîte. Oh merde, j'y pensais plus à celle-là. Heureusement pour toi que tu es un homme blanc. « Blanc comme de la fiente d'oiseau », confirme-t-il. Sur son bureau, Bernard a une boîte en verre avec l'inscription « Hagens Nieter Kultur », remplie de cannabis. Parfois, après une longue journée de travail où il a donné plus qu'il ne le pouvait, ils fument un joint ensemble sur la terrasse, face à l'eau.